Aujourd'hui, Antenne Doc vous emmène à la rencontre de la ferme des rescapés. Je suis en compagnie de Morlind et de Verena Figel, qui sont les responsables de cette ferme. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette ferme des rescapés ?
En fait, nous sommes ici depuis 23 ans. Et au fur et à mesure que nous vivions ici, on a rencontré beaucoup des animaux abandonnés ou dans les mauvais états où il y a personne est venu pour intervenir pour leur aider. Et on a commencé à les acheter ou à négocier avec les propriétaires où les gens ils sont venus de plus en plus pour nous amener des animaux trouvés, des animaux blessés, etc. J'ai fondé en fait cette ferme pour les animaux parce que d'abord on était des agriculteurs pour la maraîchage biologique, mais la dimension des animaux qui sont arrivés ici c'était tellement énorme qu'on a créé beaucoup de structures pour des chats sauvages, pour des chats abandonnés, pour des animaux des fermes, pour des chevaux et finalement aussi pour des chiens. Et j'ai un peu, perdu toutes mes économies par les structures, par les frais vétérinaires. On a dépensé tout notre argent qu'on a gagné avec notre travail. Que ma fille, elle a eu l'idée de fonder une association qui permet aux gens de faire des dons qui sont déductibles aux impôts à 66% et qui nous permet de demander des dons simplement pour continuer à financer. Nous sommes une association depuis combien des années maintenant?
2009.
Et notre réputation a grandi énormément. Nous sommes sollicités de toute la France pour des animaux de ferme qui sont destinés pour l'abattoir, surtout aussi pour des chats sauvages, chats abandonnés. Nous sommes sollicités par des mères autour de nous. Il y a un décès, une dame qui doit aller à EHPAD, qui laisse derrière elle 15-20 chats. Des expulsions avec des animaux où les mères ne savent pas où les mettre. Des associations qui nourrissent et qui stérilisent les chats sauvages, mais leur site où ils vivent va être détruit, ils ne peuvent pas rester là, qui nous sollicitent aussi. Des personnes qui trouvent des animaux, de plus en plus animaux blessés, qui nous demandent de les prendre en charge financièrement et le garder. Et on a aussi, il y a 4 ans, ramené beaucoup de chiens de Roumanie où la situation là-bas est incroyable, atroce pour eux. Ils sont battus à mort, ils sont électrocutés, ils n'ont aucun espoir et on a ramené beaucoup de chiens. On a placé à peu près 300 chiens de Roumanie et il nous reste encore, mais on a arrêté. On arrête avec les chiens, plus ou moins, mais on garde notre accueil pour les chats sauvages et les animaux de ferme.
Alors ici, ce n'est pas un refuge comme tous les autres? Puisque je crois que vous avez une particularité, c'est que vos chiens vivent en meute libre et vos chats ils habitent dans la maison d'habitation, c'est ça?
Un peu les deux. En fait, les chiens, oui, c'est vrai, ils vivent en meute libre. Ça leur permet de se sociabiliser. C'est pour ça que nous sommes aussi sollicités par beaucoup de refuges qui veulent qu'on prenne leurs chiens compliqués, agressifs, etc. Pour leur redonner déjà confiance à l'humain et leur donner un comportement beaucoup plus sociable. Ça marche très bien. On a beaucoup de succès avec cette méthode. En fait, je l'ai déjà pratiquée en Allemagne. Par contre, c'est un travail qui est extrêmement épuisant parce qu'en fait, vous vivez avec ces animaux. Vous ne quittez pas votre refuge à 6 heures. Vous n'avez pas de week-end, de jours fériés. Ou cette 24 heures sur 24 heures, oui, responsable pour les animaux. Il faut les recadrer, il faut les calmer, il faut les surveiller, éduquer. Le côté chien, les chats, c'est vrai, ils vivent avec nous dans 2 maisons, mais on a créé aussi 5 ou 6 grandes chatteries avec beaucoup d'espace naturel, surtout, ça veut dire de l'herbe, des arbres, des petites cabanes. Chaque chat a une maison avec les autres qui est chauffée. en hiver, mais ils ont la liberté au maximum. Ils sont dans un espace sécurisé, mais ils sont quand même assez libres parce qu'il y a beaucoup de chats qui restent ici, simplement. Nous ne sommes pas un refuge comme les autres. On ne prend pas les animaux pour les placer le tout de suite possible, le plus vite possible. Il y a beaucoup d'animaux ici qui ne peuvent pas être placés quand même. Parce que nous sommes un peu les derniers recours pour les fourrières, pour les refuges. Nous, on prend surtout ces animaux que les autres refuges ne peuvent pas prendre ou garder, ou les autres associations ne peuvent pas placer.
Vous avez combien d'animaux en tout? Et est-ce que vous, j'imagine, vous n'avez pas que des chiens et des chats?
Non, on a... c'est peut-être toi qui peux.
On a à peu près 600 ou 700 animaux et effectivement, on a aussi, à part les chiens et les chats, oui, à peu près 70 équidés, 18 vaches et des chèvres et des moutons.
Vous venez de le dire, ça représente un énorme travail. Vous êtes toutes les deux. Est-ce que vous embauchez aussi du monde? Est-ce que vous avez des bénévoles?
Malheureusement, nous n'avons pas l'argent pour embaucher quelqu'un. Nous avons une très belle équipe de bénévoles qui nous font des trachées, par exemple chez les vétos, où ils trappent des chats chez des personnes qui n'ont pas des voitures, qui ne peuvent pas les faire parce qu'ils sont trop âgés. Les gens qui nous font un peu le travail comme ça, parce que pour nous, c'est très compliqué de quitter le refuge déjà. Et nous, on travaille aussi gratuitement 18 heures par jour. Vraiment 18 heures par jour, on finit notre travail pour le moment à 2 heures dans la nuit. Et on n'a jamais une seule heure de repos. C'est ça qui est très, très fatigant. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui viennent de temps en temps pour nous aider, quelques heures pour nettoyer. Le problème, c'est aussi qu'on a quelques chiens qui sont compliqués. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Et il faut être prête à faire des travaux très lourds, physiquement, épuisants. C'est pas à donner à manger ou brosser les chevaux. C'est vraiment du travail qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de la force et, ouais, endurance. Et ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts pour ça.
Est-ce que vous en cherchez des bénévoles, justement?
Oui, on cherche surtout des personnes qui sont capables de bricoler. Parce que malheureusement, on a beaucoup d'animaux, comme des vaches ou des... Oui, qui cassent aussi des choses, des grillages. Il faut réparer, il faut renouveler. Des personnes qui sont capables de faire ça. Ça, on en cherche activement. Parce que de temps en temps, on paye quelqu'un au contrat... Comment ça s'appelle?
C'est un auto-entrepreneur qui nous fait des factures.
Oui. Mais oui, ça coûte énormément de l'argent. Et, oui, on cherche ces personnes-là, ça c'est sûr.
Alors on va resituer la ferme des rescapés, elle est à Cassagne. Donc Cassagne, pour situer un peu géographiquement pour nos auditeurs, c'est pas très loin de Puy-l'Évêque.
Fraissinet-l'Échela, Villefranche du Périgord. En fait, nous sommes à la limite, ou Fumel même, nous sommes à la limite des deux autres départements.
Alors comment est-ce qu'on peut également vous aider? Par les dons, j'imagine?
Par les dons, surtout. On a énormément besoin de l'argent. On a un budget énorme. On fait déjà beaucoup, beaucoup nous-mêmes. Puis on sollicite bien sûr les vétérinaires régulièrement avec nos animaux. Mais on fait beaucoup de soins nous-mêmes. Il y a des vétos qui nous font complètement confiance et qui nous disent qu'ils sont bien chez vous. Ça nous permet d'économiser, bien sûr, mais il y a quand même, oui, il y a des stérilisations, il y a des opérations, il y a des médicaments, surtout, qu'il faut acheter, qui coûtent très, très cher. La nourriture, le foin pour tous ces animaux, ça coûte une fortune, la nourriture pour les chats. Oui, on a un budget de 120 000 euros par an.
Oui, quand même. Donc, si on veut vous aider, on peut aussi éventuellement vous proposer du matériel.
Oui, du matériel. Ça, il faut voir avec les gens qu'est-ce qu'ils nous donnent, parce que ça doit être vraiment pratique pour nous aussi et pas uniquement nous encombrer. Toujours demander du matériel pour nettoyer, des choses vraiment utiles directement, des nourritures, des bonnes nourritures par contre, et des dons financiers surtout. qui sont déductibles, oui, il faut les dire, des impôts.
Donc vous avez un site qui est bien d'ailleurs, qui est très riche, c'est vous qui le faites.
Oui, oui, vous pouvez toujours aller sur le site de l'association, lafermederescapés.org, et on a aussi un Facebook où on donne toujours des nouvelles régulièrement, des animaux à l'adoption, de ce qui se passe au refuge, et où on fait des appels parfois aussi concrets de bénévolat pour aider à vermifuger des animaux ou autres.
Alors, on va revenir sur les animaux en adoption. Vous en avez combien en ce moment ?
Je ne peux pas vous dire un chiffre comme ça, mais oui, on a une cinquantaine de chiens à l'adoption, des chats en famille d'accueil, et puis oui, j'ai des chevaux à l'adoption, mais c'est des chevaux de retraite qui sont non montables juste pour la compagnie. On n'a pas d'animaux qui sont encore de rente, quoi.
Donc vous êtes reconnu d'intérêt général, et on le comprend bien. Merci à vous de vous occuper de tous ces animaux, mais vous avez un souci en ce moment, si j'ai bien lu sur votre site justement, c'est qu'il y a un projet juste à côté de chez vous d'un parc éolien. Et bah, ça vous ennuie beaucoup, et vous, si vous voulez bien m'expliquer pourquoi.
Oui, en fait, ça fait plus qu'ennuyer, ça nous fait vraiment très, très peur parce que c'est un projet qui va déjà dévaster la nature autour de nous. Il y a des dizaines de hectares qui vont être fermés avec du béton, qui vont irrésistiblement être détruits pour tous les animaux qui vivent là ou qui survolent cet espace aussi. Et il y a beaucoup de dangers pour la santé animale déjà. Il y a des éleveurs qui ont montré des effets très néfastes sur leurs veaux, une mortalité élevée de leurs vaches, des malformations chez des éleveurs pour les chevaux, qui, les poulains, ils avaient des jambes tordues. Et il y a le danger des ultrasons, en fait, qui émettent ces aérogénérateurs et des pales, qui sont pas audibles pour notre oreille externe. Le bruit, il est pas si dévasteur au premier vue, en fait. Mais ces ultrasons, ils entrent dans notre oreille interne et dans notre cerveau. Ils sont une source permanente du stress et des, en fait, néfastes pour notre système immunitaire. Et les gens qui doivent vivre avec ces éoliennes, ils témoignent beaucoup il y a des études carrément aussi des effets sur le système immunitaire et respiratoire, maux à la tête, ils ont des acouphènes, ça veut dire ils ont des bruits dans l'oreille constamment, ils ont des troubles équilibrés parce que l'oreille interne cherche ça, ils ont des insomnies, ça va jusqu'à épilepsie et jusqu'à dépression, jusqu'à cancer. Il y a aussi à nommer le macro-ondes magnétiques, parce que oui, bien sûr, l'électricité que ce moulin du vent, qui n'est pas un moulin du vent comme autrefois, comme on dit, oui, c'est naturel, c'est écologique, ce sont des monstres qui sont de hauteur de 200 mètres, qui épandent une surface de 1,25 km. Espace aérien, ce courant qu'ils émettent quand ils fonctionnent, et il faut dire qu'ils ne fonctionnent pas très souvent, font des trachées avec des câbles, avec des, je crois, 20 000 volts qui vont se passer à peu près 500 mètres de nous et qui émettent des effets néfastes incroyables pour les humains et pour les animaux. On s'est toujours demandé pourquoi le maire il a jamais fait une information sur ce projet-là, parce qu'en fait c'est plus ou moins c'était par hasard que les voisins ils ont appris ça, et c'était chez nous notre ancienne maire qui nous a averti, et un membre du collectif qui s'est formé, des habitants qui sont concernés, qui sont très inquiétés. Et maintenant, je sais pourquoi, parce que j'ai parlé avec une présidente d'une association qui est dans les Lot aussi et qui a lutté avec son collectif effectivement contre un parc éolien. Et elle m'a dit, elle a lu elle-même le courriel, son maire lui a montré après ces entreprises, ils disent aux maires de ne pas dire à la population qu'ils font ce projet-là, parce qu'ils savent déjà qu'il y a une grande résistance, parce que la population se rend de plus en plus compte quel effet secondaire néfaste, c'est-à-dire parc éolienne. Déjà, c'est un chantier gigantesque. Et c'est un chantier qui va rapporter sûrement de l'argent pour les propriétaires au début. Mais ce qu'ils disent jamais, ces entreprises, après le démantèlement, ces pales énormes de cet béton, c'est à la charge de la mairie et des propriétaires. Et ça coûte des centaines, des milliers d'euros. Et cette entreprise qui sollicite actuellement la mairie, elle est plus existante en 300 parce que ce sont des spéculateurs qui vont en fait ces terrains après à des investisseurs, des grandes boîtes étrangères qui les vont après encore. Ça veut dire un propriétaire qui vend aujourd'hui, il n'a jamais la même personne qui fait le contrat avec lui quelques années plus tard. Et cette entreprise à qui il loue, qui font les bails en fait, il n'existe plus. Et après, il se retrouve sur une décharge énorme avec une éolienne qui a une expérience de vie de 15 ans à peu près, c'est ce qui n'est pas beaucoup en fait, avec un terrain qui est détruit avec du béton. Il y a des témoins qui disent là où il y a des éoliennes chez eux, même les arbres plus loin, ils meurent parce que les ciments, ils stérilisent le sol, ils tuent les racines. Oui, tout ça, c'est un cauchemar pour nous et heureusement, pas uniquement pour nous. On a déjà plus de 1000 signatures. On a une pétition en ligne et on demande vraiment à toutes les personnes qui sont concernées directement, mais aussi indirectement, parce que c'est une destruction d'un paysage qui est parfait ici. C'est une destruction de l'infrastructure. C'est aussi, il faut le dire, oui, bien sûr, ça rapporte d'abord de l'argent à la mairie. Mais après, vous pouvez oublier vos sites, vous pouvez oublier vos places de camping, vous pouvez oublier tous les sites touristiques. Personne ne va venir ici parce qu'il risque des effets sur sa santé. Il ne veut pas faire un pique-nique à côté d'une autoroute. Cet espace qui est bétonné, comment ils veulent transporter les pales énormes avec les toutes petites routes ici? Oui. Vous les avez vues? Déjà, quand vous passez une autre voiture, on arrive à peine à se dépasser. Mais comment vous voulez des pales qui sont de 200 mètres? Les transporter, ça veut dire qu'il faut agrandir toutes les routes. Il faut détruire encore plus ces espaces naturels. Les Parisiennes, les Hollandais, les Anglais, ils viennent ici parce qu'ils veulent la paysage, des beautés, ils veulent un espace naturel, ils veulent la nature qui sont plus chez eux. Et ils vont pas louer un site, ça ils peuvent avoir à Paris déjà. So, c'est pas très loin réfléchi.
Donc heureusement vous avez donc lancé cette pétition et vous avez déjà à peu près un millier de signatures et vous avez quelques personnes qui se sont investies vraiment, des responsables.
C'est un collectif qui font aussi beaucoup d'informations locales, qui ont mis des affiches dans les boîtes à lettres et qui ont sollicité d'autres maires parce que les maires autour, ils sont tous contre ce projet. Ils font surtout une réunion ce samedi-là à 18h à la salle des fêtes à Cassagne pour informer encore plus la population et tous les gens qui sont intéressés sur ces effets, surtout. Parce qu'il faut dire, les ultrasons ou les effets macro-ondes, ça touche pas uniquement nous et notre voisin ici à côté. Ils sont une distance de 10 kilomètres. Ça veut dire tous les petits villages aussi, ils sont concernés avec.
Est-ce que vous pouvez nous donner l'heure et l'endroit où ça va se passer?
C'est la salle des fêtes à Cassagne et c'est à 18h. Le 25 septembre, c'est ce samedi-là. Et le plus de gens viennent pour montrer leur désaccord, c'est mieux, ça c'est sûr.
Donc on vous invite tous à venir à cette réunion d'information. Morlinde, quelques mots avant qu'on se quitte.
Pour nous, ce projet, c'est vraiment un combat encore qu'on doit mener parallèlement à notre refuge. Et notre refuge nous prend déjà énormément de temps. Et ce combat maintenant de lutter contre ce projet, d'informer les gens, parce que toutes les personnes autour de nous qu'on est allé voir, personne n'était au courant. Et donc, oui, c'est énormément de travail. Et c'est aussi une raison pour laquelle, avec tout le travail qu'on a, il n'est pas possible de visiter la ferme, toutes les adoptions. Donc c'est uniquement sur rendez-vous. Le meilleur moyen de nous contacter, c'est toujours par téléphone. Vous avez nos deux numéros sur le site indiqués partout. Comme ça, on peut parler au téléphone et convenir d'un rendez-vous qui convienne à tout le monde. Et nous remercions toutes les personnes qui pourront nous apporter leur soutien d'une manière ou d'une autre, chaleureusement.
Eh bien, mesdames, je vous remercie. Donc, je ferai un petit récapitulatif après de vos coordonnées. Mmh. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Merci à vous.
Merci à vous.
Ça fait maintenant 15 ans qu'elles sont là. 100 000 éoliennes qui tournent à tour de bras. Un quart de kilomètre au-dessus de nos têtes, qui sème le vent, récolte la tempête. Il était tout content, monsieur le maire, un fervent opposant au nucléaire. Un grand vent d'enthousiasme a nourri les fantasmes d'une énergie propre et conduit au marasme. Auparavant j'aimais les éoliennes, mais j'ai succombé au chant des sirènes. Et j'ai en vrille le vrombissement de leur valse dans le vent. Adieu nos nuits étoilées, adieu nos belles au bois dormant. Et les vents vont, et les vents viennent, ils font tourner les éoliennes. Mais quand ils freinent, quand ils s'éteignent, qui fait tourner les éoliennes? Comme le soleil qui ne brille pas tout le temps, le vent aussi n'est qu'un intermittent. Et c'est aux centrales thermiques de faire tourner la boutique. Toujours besoin de courant, même quand le vent nous fait la nique. Bien que tant d'oiseaux s'y soient coupés les ailes, elle pousse sa vitesse exponentielle. Plantée dans le béton, crucifiant l'horizon, de la discorde elles sont la fondation. En vérité, en fait de cause climatique, le calcul se révèle diabolique. Il y a tant de profits à la clé pour les lobbies, la tragicomédie d'une énergie à double prix. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Elles s'égrènent comme la gangrène dans nos campagnes quotidiennes. Au vent viole comme au soleil d'Icare, on peut brûler ses ailes sans crier gare. Au cri de l'ignorance sur ces gibets de potence, qui nous dira le prix du vent et des oiseaux en transhumance. On vend de l'infox à pertes et fracas à propos de l'éolien dans les médias. Écoutez ces politiques avec leurs choix cyniques. Une éolienne dans son jardin, c'est pas beau, mais ça fait du fric. Alors qu'en France on est indépendant en énergie sans carbone, on vend du vent. Et c'est en milliers de tonnes que l'on coule et qu'on bétonne le sol de nos forêts puits de carbone. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Et dans l'arène, en maître règne, de faux débats qui nous aliènent. Mais l'anti-éolien accroît ses troupes. Ses opposants ont bien le vent en poupe. Plus qu'une armée de Don Quichotte portée par un vent de révolte face à ces champs de géants qui clignotent. Alors aujourd'hui, c'est quoi être écolo? C'est choisir nos forêts et les oiseaux. Plus de maisons énergivores, régler la question des transports, agir en responsable, enfin prendre en main notre sort. Dans 25 ans, elles seront toujours là. Grand mât sans bras, passé de vie à trépas. Je ne serai pas celui-là qui aura dit autrefois: les éoliennes adviennent que pourra. Et les vents vont, et les vents viennent, elles finiront, les éoliennes. Qu'à cela ne tienne, semons les graines, pour que l'avenir nous appartienne.